Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'Au Première Loge, spécial couverture quotidienne de la Ligue nationale de hockey. Eh bien, oui, c'est moi, Adol Ibrahim, qui vais être à l'animation aujourd'hui. Je suis de retour après une journée de congé. Et encore une fois, on est trois pour cet épisode-là, toujours accompagné d'Olivier Presse-Grolot et Vincent Tardif. Messieurs, comment allez-vous?
Ça va bien, toi?
Ça va bien, toi?
Ça va. Là, mon son, est-ce qu'il est correct ou il est coussé coussin?
Il lag un petit peu.
On entend les petits coups, là.
Ouais. Il y a des petits criches. Je sais pas si tu veux que je prenne l'animation pendant que tu es en chat ou on s'en fout.
Ouais, mais vas-y. Yeah.
Oui, comme tu l'as bien dit, Dou, on va bien, tu vas bien aussi, de ce qu'on peut voir. Fait que, ouais, hier, c'était la fin d'une autre série dans la Ligue nationale de hockey entre l'Avalanche et les Blues. Donc, toutes les séries dans l'Ouest sont finies. L'Avalanche qui a battu les Blues hier, c'était 3-2. Je n'ai pas les scores devant moi, c'était bien sûr. Ouais, 3-2 en faveur de l'Avalanche. Les marqueurs, là, on va aller voir ça. C'est ça. Donc, les marqueurs, on avait J.T. Comfort qui en a marqué 2 pour l'Avalanche, si je me rappelle bien. Oui. Également, pour les Blues, ce ne sera pas long, ça va arriver.
On a Jordan Kyrou.
Jordan Kyrou, Justin Falk. Voilà, c'est vrai. Et le but décisif pour l'Avalanche, c'était...
Darren Helm,
oui. En toute fin de troisième période. J'avais pas les buts devant moi.
Avec 6 secondes à faire. Mais là, mon son, il va mieux?
Oui, parfait.
Oui, ça va mieux. Fait que je te renvoie la balle, Dou.
Ouais, ben t'as fait du bon travail. J'ai dit que Darren Helm a marqué
du bon travail, je me rappelle pas les victoires. J'ai pas checké la game à ma défense, là. J'ai pas checké la game.
Non, mais c'est parce que, écoute, ça arrive des fois des problèmes techniques, là, puis ça, c'en était un. Fait que t'as bien remplacé le temps que je règle ça.
Fait
intéressant par rapport au but gagnant de Darren Helm d'hier soir. Il y a 13 ans, jour pour jour, à ce moment-là, Darren Helm avait marqué en prolongation lorsqu'il jouait pour les Red Wings de Détroit pour qualifier les Red Wings en finale de la Coupe Stanley. C'était contre des Blackhawks de Chicago, puis c'était il y a 13 ans, la même journée. Il y a un article sur LNH.com qui vient de sortir par rapport à ça, si vous voulez aller lire. C'est super intéressant, mais c'était super de fait intéressant de voir que Darren Helm a été double clutch. En l'espace de 13 ans, c'est fantastique à voir ça.
Puis un joueur comme ça, d'un joueur de quatrième trio qui garde le même rôle tout au long de sa carrière, tu sais, souvent un joueur de quatrième trio va se faire tasser par des plus jeunes et tout. Mais lui, tu l'as dit, là, ça avant 13 ans, il faisait le même rôle avec les Red Wings, puis il était décisif pour eux. Fait que de garder ce même rôle-là pendant autant d'années, de ne pas se faire tasser par personne, de rester dans un alignement, dans une bonne équipe en plus comme l'Avalanche, vraiment très impressionnant, là, Darren Helm.
Ben oui, c'est ça. Mais en effet, c'est parce que la raison pour laquelle Darren Helm est resté autant longtemps, à mon avis, dans la Ligue nationale de hockey, c'est le fait que c'est un excellent patineur. Fait que souvent, quand tu es un excellent patineur, tu as plus de chances d'avoir une plus longue longévité dans la Ligue nationale de hockey. Là, souvent, c'est ça qui arrive. Puis si tu es capable d'être épargné un peu des blessures, ben, tu as plus de chances de jouer plus longtemps. Là. C'est deux facteurs qui ont fait en sorte que Darren Helm est capable de créer ce miracle-là, parce que c'est un miracle là, quand même là, que tu marques.
Il est excellent aussi.
Que tu marques deux buts gagnants en 13 ans, là, c'est assez incroyable de voir ça. Mais
défensivement, puis au face-off, c'est quand même un excellent. Ouais,
c'est un gars sur qui
tu peux compter. Tu penses pas que ce soit un cancer dans le vestiaire, fait que c'est sûr que ça aussi, ça aide. Là.
C'est ça.
Puis ces qualités-là font en sorte qu'il reste dans la Ligue nationale.
Ouais. C'est sûr. Puis si tu le jumelles avec. Avec un joueur comme Andrew Cogliano, c'est parfait là, pour des désavantages numériques puis des mises en jeu importantes en zone défensive. Bref, c'est
une quatrième ligne conçue pour les séries. Là.
C'est exactement. Je trouve que la Avalanche a vraiment fait du bon travail là-dessus. Puis je vais commencer avec toi, Vince. T'en as pensé quoi de la performance des Blues de Saint-Louis dans cette rencontre-là?
Je pense que ça a été comme pas mal toute la série. Je pense que pas mal depuis la même chose que Bennington est blessé. Je pense qu'il aurait pu en donner plus. Puis que l'Avalanche, ils ont montré encore une fois qu'il y a un point qui était bon. Mais ouais, c'est ça. Puis si on peut garder un peu plus Villé-Housseau. Là. Il les a sauvés en deuxième, mais on s'entend là, le but à Comfort. Là. Je sais pas si tu l'as vu, d'où, là, mais
ouais,
c'est que tu as gagné. C'est pas un but qui a le droit de rentrer. Ça. Tu peux pas te laisser... Mike a arrêté ça, fait que tu peux pas... comme.
Kemper, il a arrêté ça, lui?
Oh, sûrement. N'importe qui a arrêté. Un gardien de mon... Un gardien de ma... Je n'en reviens pas que
ça arrête. Justin Jarry a arrêté
ça? Ouais, c'est côté sa mitaine, hein?
Ouais.
Je sais pas. Mais ouais, la performance, c'est tentée. Je pense qu'on a encore eu une domination de l'Avalanche, là, surtout avec le nombre de tirs au but. Là, 39 contre 20, là, on s'entend que pas mal de différence ici. Puis encore une fois, là, ils étaient souvent dans leur zone, tournant alentour. Fait que non, c'était un peu décevant. Puis, c'est sûr.
Ouais, ben Vince, rappelle-moi assez bien le tir côté bloqueur qu'il a touché, mais que ça a rentré
pas. Non, pareil. Côté de la mitaine.
Ok, l'autre but. Okay.
Ouais, ouais.
Même celui côté bloqueur, là, il avait le touche à rondelle.
Ça avait vraiment pas l'air.
Il n'y avait pas de. En fait, je pense que c'est Kemper qui a laissé passer ce but-là, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Bref, cette série-là n'était pas à part avec la. Quand Bennington était là, c'était pas une série de gardiens de but non plus. Là.
Bon, moi, pas une série de gardiens, en fait, à part
Storm, c'est
le Flames en première ronde. Là,
exact.
En
fait. Markstrom Smith, c'était clairement la pire, là, mais Kemper et Housseau, c'était pas fameux non plus. Ouais. Fait que, puis comme tu as dit, Vince, 20 tirs pour les Blues, on a beau être opportuniste, mais c'est pas assez là, contre l'Avalanche.
Ouais, ça plus,
quasiment 30, quasiment 40 tirs. Fait que je suis bien d'accord avec tout ce que tu as dit.
Josh Manson, là, c'est lui qui a
Josh la Manson, soirée, gros
là.
Match.
Ça arrête 3-1.
On s'entend. Sauver un but, c'est une passe.
C'est 3-1. Fait que on aurait droit à une game 7 là, si Manson ne se met pas devant le filet pour sauver un but. Je comprends pas ce que Kemper a essayé de faire là, avec. Sortant de son filet comme ça, là, se prendre pour Dominique Hachek. Ouais.
Mais moi, je trouve que Darcy Kemper, il m'inquiète un peu. En fait, j'ai vraiment l'impression que si Darcy Kemper joue de la même façon contre Dallas Edmonton, je ne serais pas surpris que Dallas Edmonton marque presque autant de buts que ce qu'ils avaient fait contre les Flames. Ça, c'est le nombre d'unités. Vous l'avez parfaitement précisé. Le nombre d'occasions des Blues, là, c'était pas beaucoup là, hier soir. Là, puis ils ont quand même trouvé des moyens d'avoir des buts importants. Puis si ce n'était pas de l'arrêt extraordinaire de Josh Manson, je trouve que c'est encore un gros point d'interrogation du côté de l'Avalanche Colorado. Puis c'est probablement un des rares points d'interrogation qu'il y a dans cette équipe-là. Là. Je trouve ça particulier quand même, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas juste du côté de l'Avalanche. On dirait que c'est comme une tendance dans la ligne salaire d'hockey que les gardiens de but ont un peu de difficulté dans les séries éliminatoires, surtout cette année. Là. C'est incroyable. T'sais, on parlait de Markstrom. Markstrom, hier, j'étais pas là pour en parler avec vous, là, mais Markstrom, je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans sa tête pour être autant mauvais contre Dallas. Puis c'est pas seulement dans cette série-là. En saison régulière aussi, on l'avait vu qu'il était mauvais contre les Oilers.
Puis c'est même avant aussi, là. C'est de carrière quasiment là, que Markstrom n'est pas capable de sortir des grosses games contre les Oilers. Fait que...
Ouais, c'est vrai. Puis Lou, t'as parlé des Blues qui avaient peu de chances de marquer. Je pense que tout au long de la série, c'est le même scénario qui s'est répété ou presque. Puis contre le Wild aussi, c'est l'Avalanche domine une grande majorité de la rencontre, a plus de chances de marquer, pas dans tous les matchs, mais dans plusieurs. Les Blues ont quand même des bonnes chances de marquer, ont moins de tirs, mais sont opportunistes, réussissent à marquer des buts importants, comme tu as dit. Puis ben là, hier, c'est Benson qui a fait de la différence. Puis c'est le but de plus de Darren Helm à la toute fin de la rencontre. Mais vraiment, les Blues qui ont quand même été impressionnants, je trouve, au niveau de l'opportunisme, parce que beaucoup moins de chances de marquer, beaucoup moins de tirs, mais quand même, les buts étaient là. Un bon avantage numérique aussi. Fait que chapeau aux Blues, mais je pense que l'Avalanche était tout simplement trop fort. Puis Avalanche en 6. Je l'avais dit. Mais on est plusieurs à l'avoir dit en fait au club école, mais bref.
Avant ah, pas moi. Pas moi. J'avais donné un match de plus au Blues. Mais moi, j'avais
en fait, techniquement, c'est. Ouais, ben exactement. Là. Je pense que c'est... les positions auraient probablement changé si.
Ouais, ouais, ben eu, oui. On était arrivé, très mais... proche du Avalanche en 7 ou du Blues en 7. Là.
Fait que. C'est pas de vos prédictions, mais c'est un peu de chance.
J'ai été mauvais à deuxième round, mais on va pas revenir là-dessus. Donc, techniquement, pour vous, les boys, la logique a été respectée avec cette victoire de l'Avalanche hier soir? Ou...
Pour moi, oui. Pour moi, c'est la meilleure équipe.
Encore là, c'est
mais je voulais quand même donner une belle mention au Blues. Qu'est-ce que ça dit?
Ben, moi, je vous disais que s'il y avait Bennington devant le filet, je pense pas que l'Avalanche. Si Bennington est devant le filet, je pense pas que la logique est respectée.
Si Bennington était devant le filet, je pense qu'on aurait un match numéro 7, mais je pense pas qu'on aurait une victoire des Blues quand même. Ah, je pense que ça aurait été Avalanche en 7.
Les matchs qu'il a volés, Kemper n'a pas montré qu'il était capable de faire ça en série.
L'Avalanche a quand même été capable de gagner un match contre Bennington.
Justement, un.
Ben, il aurait été capable de
gagner dans la série. Il aurait gagné plus.
C'est quoi, c'était 1-1 quand Bennington est sorti?
Non, je pense que c'était 1-0 Blues.
Les Blues dominaient en plus.
Ouais, il aurait gagné le match numéro 1 avec le match numéro 2 avec Bennington, mais c'était 1-1 dans la série. Même. Ça aurait très bien pu faire la même chose à la maison. Puis en bref. Moi, je pense que ça serait rendu en 7, mais que l'avance aurait quand même gagné. On ne saura jamais.
Non, mais on ne saura jamais. Par contre, ce qui est ça, c'est que j'ai l'impression que la blessure de Bennington a fait autant mal que ça que de Crosby pour les Penguins. À mon avis, là,
oui,
c'est la même envergure.
C'est le meilleur joueur des deux équipes.
C'est le meilleur joueur des Blues là, dans cette série-là. Puis il a quitté cette rencontre-là. Bon, les boys, on va aller tout ça dans le segment point positif et point négatif. Je vais commencer avec toi, Ali. C'est quoi tes points positifs et négatifs de la soirée d'hier?
Ben, je vais laisser Josh Manson à Vince là, ou à toi parce que il en a bien parlé tantôt. Fait que je vais y aller avec peut-être dans l'ombre, là, mais Bowen Byram, je trouve que depuis la blessure à Samuel Girard, surtout, là, il joue bien. Ils sont en jeu augmenté justement à cause que Girard est blessé. Il y a une passe hier, déjà sa 6e passe des séries quand même. Fait que peut-être pas nécessairement juste pour son match d'hier, mais pour son travail dans l'ensemble depuis le début des séries. Je pense qu'il faut le mentionner. T'sais, c'est pas le. Il attire pas les regards autant que McCarr ou même Devontae, mais il est très efficace. Il me semble pas trop nerveux malgré son jeune âge. Au début de la saison, on pensait peut-être que sa carrière était compromise là, avec son historique de commotion et de blessure. Finalement, il est revenu et il joue bien, à mon avis. Donc voilà, je pense qu'il apporte une belle fraîcheur à la ligne bleue de l'Avalanche. Puis je voulais le mentionner comme point positif, pas juste dans ce match-là, mais dans toute la série. Puis comme point négatif, difficile de trouver un point négatif, honnêtement. Là, je vais y aller. Je vais y aller avec l'attaque des Blues qui était dos au mur. On a parlé d'opportunistes qui ont quand même réussi à marquer 2 buts alors qu'ils obtenaient moins de chances de marquer que l'Avalanche. Et ce, dans presque tous les matchs de cette série-là. Mais à 20 tirs quand t'es dos au mur, c'est pas assez. Là. Tu dois être capable de générer. Plus de tirs au but, plus de circulation devant le filet, plus de chances de marquer, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui aurait peut-être permis qu'ils prennent l'avance dans ce match-là, ben, qu'ils prennent une avance plus considérable dans ce match-là s'ils l'avaient fait. Ils ne l'ont pas fait, donc je vais y aller pour l'attaque, pas nécessairement au niveau de l'opportunisme, mais au niveau du nombre de chances de marquer générées.
Mm-hmm. Pour toi, Vince, c'est quoi?
Ça va être assez simple. Moi, mon propos, ça, c'est vider ou son en deuxième période. Puis mon point négatif, c'est Villers-Rousseau en troisième période.
Fort.
Wow, man. Wow.
C'est bien.
C'est parfait. c'est cool, mais c'est toujours aussi précis.
Ça explique tout.
Ça explique tout. On n'a pas besoin de rentrer plus en détail par rapport à ça. Là. Tu l'as parfaitement décrit. Villers-Rousseau deuxième période, Villers-Rousseau troisième période. Et voilà. C'est l'opposé. Puis c'est peut-être ça qui a coûté la série, en fait. Hein. C'est peut-être ça. Mais ça reste à voir. Bon, moi, je vais aller. Je vais aller de mon point positif, de mon point négatif. Point positif. Mention honorable à Josh Manson parce qu'il a probablement fait l'arrêt de cette série-là.
Ouais,
puis qu'est-ce qui est quand même particulier, c'est que l'arrêt le plus important de cette série-là a été fait par un défenseur et non un gardien de but. Fait que déjà, ça veut dire quelque chose. C'est assez révélateur de voir que les gardiens de but ont moins d'impact dans un match. Quoique
Bennington a fait des gros arrêts aussi. Là.
Ouais, c'est sûr, mais on a
plus un échantillon juste sur un match et demi.
Assez élevé pour déduire que Bennington avait un si grand impact. Là. Mais bref. Puis c'est ça, mais moi, pour vrai, mon point positif, je vais aller avec JT Comfort. Oui, OK, c'était pas deux buts extraordinaires.
C'est pas comment, c'est combien, là.
On s'en fout de la beauté du but.
Un but, c'est un but.
Puis c'est ça qui est arrivé hier pour JT Comfort, un doublé hier. a su être opportuniste. Puis c'est important d'avoir, d'avoir des buts de la part des joueurs de soutien de l'Avalanche Colorado, parce que l'Avalanche Colorado, comme n'importe quelle équipe dans l'excellence de hockey, ne peut pas juste se fier sur son top 6 pour toujours marquer des buts. Là. Des fois, ça arrive que ton top 6 soit un peu moins productif. Hein. On l'a vu hier soir. Là. Nathan MacKinnon n'a pas de points. Kyle Makar non plus, si je ne me trompe pas. Puis, tous les gros canons. Kadri, Rantanen, Landeskog. Bref, ça a été un match plutôt tranquille pour ces joueurs-là. Puis, j'étais comme fait à se faire la différence hier avec deux buts, dont le but égalisateur. Puis, tu sais, c'était quand même un but en avantage numérique là, surtout le deuxième but. Là. Quand c'est rendu que c'est ta deuxième vague d'avantage numérique, puis c'est un joueur comme JT Comfort qui est juste son troisième trio qui marque en avantage numérique, ben, c'est un plus pour l'Avalanche Colorado. Point négatif, moi je vais aller avec David Perron. Moi, David Perron, hein, il m'a déçu lors de deux derniers matchs. J'ai vraiment l'impression que depuis son match numéro 4 ou qu'il voulait juste s'en prendre à Nazem Kadri, j'ai vraiment l'impression que ça l'a complètement sorti de son match, puis qu'on l'a juste pas vu lors des deux derniers matchs. Il n'y a aucun point pour lui, il est moins un des deux derniers matchs. Puis c'était vraiment important pour les Blues de voir à David Perron marquer des buts, puis être autant décisif comme il l'avait été lors de la première ronde, puis une partie du début de la deuxième contre l'Avalanche. Puis malheureusement, il n'a pas été très présent lors des derniers matchs. Puis malheureusement, pour les Blues, ben, ils sont éliminés puis ils doivent aller jouer au golf. Mais c'est ça. Fait que mon point négatif, c'est David Perron. Mais c'est pas le seul vraiment qui. C'est pas la personne principale sur qui on doit blâmer la défaite des Blues, de loin de là. Là. C'est juste c'était un des meilleurs attaquants des Blues dans la série du moteur général. Mais lors des deux derniers matchs, il était absent. Puis. Ça fait mal aux Blues de ne pas avoir une production de la part de David Perron. Là. Fait c'est ça qui complète le segment de points positifs et points négatifs.
Je ne sais pas si... Le handshake entre Kadri et Perron, hier, je trouve quand même ça popé. Il n'y avait pas de... C'était pas juste un... Ça à la main, puis on continue. Là, les deux, ils se sont parlé un peu, puis après, on continue. J'ai trouvé ça un beau class hack entre les deux joueurs. Là. Mm-hmm. Même que Perron s'est peut-être un peu excusé. Ouais. Fait que donc j'espérais que la caméra reste là-dessus là, pour qu'on voit entre les deux, puis les réalisateurs ont bien compris qu'est-ce qu'il fallait qu'ils montrent, puis on a vu l'échange entre les deux, j'étais bien content de voir ça.
Perron avait beaucoup de haine en lui pour ce qui est de Cadré, semble-t-il, mais tant mieux si c'est derrière lui.
Ça a montré ce qui se passe à la glace pendant la game, c'est différent de ce qui se passe après, fait que j'ai bien aimé voir ça.
Non, ouais, ça fait du bien d'avoir un peu de maturité de la part des joueurs de l'incident d'hockey. C'est plate de voir des joueurs qui se chamaillent sur la glace, puis qu'après ça, là, même quand la partie se termine, ben, qu'ils se chamaillent quand même. Moi, il y a une scène qui me vient en tête, c'était celle de Milan Lucic.
I'm gonna fucking kill you next year.
Ouais, man, Alexei Yemelin et Dale Lucic.
Oui, bref, ça m'avait marqué à vie. Là.
Ouais, vraiment.
Lucic, t'as juste perdu les séries. Ouais, mais Milan Lucic, parce que je ne m'embarquerai pas sur lui. Là, mais en tout cas, j'ai mon opinion face à Lucic. J'ai mon opinion face à Milan Lucic, mais on s'en fout.
Bref, on l'a tous.
Bon, écoutez, messieurs, avant de rentrer dans la série entre l'Avalanche puis les Oilers, il y a un match ce soir. Il y a un match numéro 6 entre les Rangers de New York puis les Hurricanes de Caroline qui va avoir lieu ce soir du côté du Madison Square Garden à New York. Vince, est-ce que tu penses que Hurricanes et Caroline vont finalement arrêter cette malédiction-là de perdre à l'extérieur?
Non, je pense pas. Je pense qu'on va revoir un match 7 à Raleigh en Caroline lundi. C'est lundi, s'il y en a même. Ouais, fait que non, je pense que les Hurricanes vont encore avoir de la misère à closer à l'étranger, puis les Rangers vont encore l'emporter. Hein. C'est... Mm-hmm. Je m'attends à une grosse performance. Artemi Panarin. J'aurais pas trop vu depuis le début de série, là. Mais je pense que ce soir, il a été le game 7 contre les Pingouins à la maison. Je pense qu'on pourrait être le game 6.
Précisé, il était là en avantage numérique. Il a pas été là dans ce match-là. Il a été dégueulasse.
Sur le but décisif.
Il a juste été là.
Il a juste un but.
C'est vrai, t'as raison.
C'est vrai que c'est le but le plus important de la série, techniquement.
Ouais, c'est techniquement, t'as 100% raison là-dessus, mais pour vrai, t'as raison sur le point qu'Artemi Panarin doit absolument se réveiller. Là. On l'a pas vu dans cette série-là contre la Caroline. Puis,
on l'a pas vu du tout.
C'est un match numéro 6. Les Rangers de New York font face à l'élimination. Donc, t'as besoin de ton meilleur joueur. Puis, techniquement, ton meilleur joueur, c'est supposé être Artemi Panarin. Donc, si Panarin est capable de jouer au hockey comme il est capable de faire, ben, d'après moi, il va connaître un grand match. Mais c'est pas le seul aussi. Je m'attends aussi à un gros match de Chris Kreider aussi qui lors des deux matchs où les Rangers faisaient face à l'élimination contre les Penguins, il avait joué des gros matchs. Puis j'ai l'impression qu'il va être capable de sentir une grosse soucis parce que lui aussi, ça a été un peu plus difficile. Lors des cinq premiers matchs dans cette série-là. Là. Toi, Ali, est-ce que tu penses que la Caroline peut gagner ou ça va être encore les Rangers qui vont gagner à domicile?
Ah, je suis même avec Vince. La Caroline ne m'a juste pas donné confiance qu'ils pouvaient gagner à l'étranger. Ils ne l'ont toujours pas fait jusqu'à maintenant dans les séries. Mm-hmm. La malédiction de l'étranger pour la Caroline, encore une fois ce soir, je pense. Puis les Rangers vont gagner ça. Il y en aura un match numéro 7. Je pense que les Hurricanes vont gagner la série, ceci dit, mais... En 7.
Ouais, mais je pense que la malédiction doit se terminer. Là. C'est,
tu penses que ça se finit ce soir? Moi, je serais content, j'ai mis Hurricanes en 6, mais...
C'est parce que là, ça n'a pas de sens, à mon avis, là, pas être capable de gagner à l'étranger, mais tu ne seras pas tous tes matchs à domicile, il y a quelque chose qui cloche. Hein.
Écoute, par exemple, Toronto, hein. Leur malédiction qui est bien pire que ça, là, eux autres, c'est 18 ans pour passer une ronde. Fait que ouais, Caroline, ouais. Je ne sais pas exactement combien de matchs, là, mais ça fait dur, mais ça fait moins dur que.
Je crois que c'est 5 matchs.
Ouais,
je crois que c'est
au
0-5.
Ouais, 3 contre les Blues, puis 0-5. Être un petit 1-5 avant le Lightning, c'est sûr que ça serait le fun, là, mais. Moi, je pense que ça va en 7.
Ben, ils sont quand même 7-0 à domicile. Hein.
Ben oui, mais c'est sûr. À domicile, aucun problème. C'est à l'étranger.
C'est ça. Puis en plus, les Rangers ont vraiment été mauvais là, lors du dernier match, je trouve. Là. Genre, ça a été la pire rencontre de la série. Mm-hmm. C'était dur pour les Rangers. Fait, moi aussi, je m'attends à un gros match des Rangers. Ça s'annonce intéressant. Bon, rapidement, là, on va juste rapidement parler de la série entre les Oilers puis...
Colorado
qui arrive, le fameux duel entre Connor McDavid et Nathan MacKinnon. Je vais commencer avec toi, Vince. Vince, c'est quoi tes attentes pour cette série-là?
Ben, on en a parlé un peu avant que Lee arrive. J'ai regardé les matchs, les résultats des matchs en fait entre les Oilers et l'Avalanche durant la saison. On a eu un match qui a fini 3-2 Avalanche en prolongation. Donc, on parle déjà d'un match serré. Ensuite, on a eu un match, ça c'était au mois de mars. Ensuite, on a eu un match début avril entre, encore une fois, les Oilers et l'Avalanche. Cette fois-ci, c'était Mikko Koskinen devant le filet. Pour plusieurs, ça répète une volée. Finalement, ça finit 2-1 en tir de barrage pour l'Avalanche. Donc, Mikko finit avec 33 arrêts. Puis, fait que c'est un autre match serré. Kemper a fait 49 saves, ce qui est quand même super solide. Là. Fait que les deux matchs. Donc, est-ce que je m'attends à une série serrée? Oui, surtout voyant le jeu des Oilers contre les Flames. Ils ont été capables d'amener les Flames à jouer leur style de jeu, qui est un jeu style de hockey, un peu plus de patinoire, si on veut. Donc, c'est à voir si... Ali, t'es sur mute. Je sais pas si t'es essayé de parler. Ou... Mais... c'est ça. Fait que les Oilers ont réussi à changer les Flames de leur style de jeu. C'est à savoir s'ils vont réussir à changer celui de l'Avalanche pour amener de l'heure. Puis, je pense que ça va être une bonne série si je me fie au match qu'on a eu pendant la saison. Puis, est-ce que les deux équipes nous ont montré à date en série? Je m'attends pas à ce que ce soit un gimme pour l'Avalanche qui passe l'Oilers en 4. Puis, si c'est ça, écoute, l'Oilers, je pense qu'ils ont eu une excellente saison. Déjà, passer la première ronde, battre les Flames après ça, c'est juste un bonbon. Fait que, je pense qu'on va s'attendre. Je m'attends à une autre bonne série du côté de l'Ouest.
Ouais, ben, comme tu l'as parfaitement dit, il n'y a pas d'attente. Je pense pas que les attentes sont au maximum pour les Oilers. Oui, c'est sûr que le but, c'est de se rendre jusqu'au bout. Mais déjà, le fait que les Oilers soient rendus en troisième ronde, déjà là, c'est un accomplissement pour eux. Donc, s'ils sont capables de battre l'Avalanche Colorado, qui est l'équipe favorite dans l'Ouest, ben, ça va être absolument incroyable de voir ça. Ali, rapidement, c'est quoi tes attentes pour cette série-là?
Vince a tout dit, là, je suis d'accord avec lui. Je pense que ça va être une série serrée, que les Oilers ont connu un parcours très impressionnant jusqu'à maintenant, que bon, c'est sûr que toute équipe veut gagner, tous les partisans veulent que leur équipe gagne, mais je pense qu'ils ont quand même dépassé les attentes jusqu'à maintenant, comme tu l'as dit. Je m'attends à une série serrée et je penche en faveur de l'Avalanche quand même, mais ceci dit, parce que une équipe plus complète, une défensive qui est peut-être plus capable de résister à la rapidité des Oilers, contrairement aux Flames. Là, on en parlait, les Godbutton, Zadorov, c'était très lent du côté des Flames. Et je m'attends à une série encore une fois offensive avec beaucoup d'arrêts. En fait, peut-être peu d'arrêts, je voulais dire, mais beaucoup de chances de marquer. Et un facteur X dans cette série-là, c'est certainement Darcy Kemper. S'il est capable, Vince parlait de 49 arrêts plus tôt en saison contre les Oilers, s'il est capable de reproduire ce genre de performance, c'est sûr que ça va aider l'Avalanche. Mais s'il joue comme il a joué dans la série contre les Blues, on pourrait avoir un problème du côté de l'Avalanche. Fait que je pense que lui, c'est un facteur déterminant. Mais en tout cas, j'espère qu'on va avoir droit à tout un spectacle et un match numéro 7, pourquoi pas, entre Nate the Great et Connor McJesus.
Nate
J'ai hâte
Beaulieu
de
est
voir
rendu avec l'Avalanche.
Qui ça?
T'as dit Nate the Great.
Ah, ben,
Non, je trouve juste ça drôle que ce soit des surnoms.
Peu importe son
Nate
surnom,
Beaulieu.
mais Mac et Mec d'abord, là. McDo puis Mac Poulet. Let's go.
Oh, Pelay! Oh, Pelay! Oh my god, c'est rendu qu'on parle de McDo, là. Okay, wow, ça va
Ben,
sûrement quand
McKinnon a
même
fait une
loin.
annonce de McDo, je veux juste dire ça, là.
C'est vrai.
C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais non, mais moi j'espère pour vrai que. J'espère que cette série-là, ça va être un peu similaire à la première fois quand Crosby et Pavichkin s'étaient affrontés en série éliminatoire. On se rappelle que c'était absolument extraordinaire d'avoir les deux meilleurs joueurs au monde s'affronter. Puis j'espère que ça va être le cas, parce que là, on va voir les trois meilleurs joueurs au monde, à mon avis, qui vont s'affronter. T'as McDavid, Jonathan d'un côté, puis t'as.
Je pense que t'allais dire Connor, MacKinnon, puis Mike Smith.
Ah, ouais, peut-être. Peut-être Mike Smith. À tes yeux, à toi, oui. Là. Peut-être que Mike Smith est le troisième meilleur gardien au monde. Mais en fait, non, même pas le meilleur gardien au monde. Parce que là,
Ouais, trois de
si tu es
meilleurs
1,
joueurs.
2, 3, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Oh, meilleur! Ok, ouais. Ça va quand même. Mais ouais, mais j'espère que ça va se transformer en une série extraordinaire. Puis pour moi, je vais encore le répéter, mais pour moi, dans un 4 il reste encore le facteur X de l'Avalanche Colorado. On l'a vu qu'il y avait déjà dans la tête
Des joueurs.
Des joueurs, surtout du côté des Blues de Saint-Louis, c'est capable de faire de la même sorte en jouant dans la tête d'un Vendekin ou d'un Zach Cassian
Ah, je suis hâte de
pour
voir
qu'ils
ça.
commettent une connerie.
C'est
Peut-être
sûr
que.
qu'ils vont faire de conneries. Même pas de question. Hein.
Peut-être que ça va couler les Oilers. Puis, tu parlais Ali, tu parlais de. Il y en a un bon défenseur là du côté de l'Avalanche Colorado, mais c'est
Oui,
Jack Johnson.
oui.
Eric aussi, il ne faut pas
Oui, mais comme je vous l'ai dit au dernier
les
podcast, pour
frères.
moi, les Flames, c'était plus lent que tu mets des McCord, des Tays contre les grosses lignes du côté des Oilers, puis ça peut régler le problème, ce qu'on n'avait pas du côté des Flames. Là.
Ah,
Mais
mais
c'est vrai qu'il y a des faiblesses, je suis d'accord avec
c'est
vous.
ce qu'ils ont été capables de faire à Calgary. Là, ils ont été
Ouais,
capables au
mais
moins de pas. Mais quand ils sont
Andrew
arrivés à
Tripp, Hamilton, c'est
Edmonton.
pas la même chose que McCord et Tays.
Non, non, mais je veux dire, quand ils sont arrivés à Edmonton. Jay Woodcroft est capable de matcher McDavid contre Gudbranson et Michael
Exactement.
Stone. Est-ce qu'il va être capable de faire ça aussi quand ils vont amener ça contre le Colorado? Il va être capable de matcher
C'est sûr que
les deux
McDavid.
Johnson contre
C'est
McDavid parce
McDavid.
que ça risque de faire mal.
Ouais, puis même Josh Manson, tu sais, que c'est pas un
C'est pas
gagnant
marchand.
patinant aussi, là.
Mais il est
C'est.
surprenant, Josh. Il est
Avez-vous
surprenant.
vu Josh Bishop en parlant de lui, là, avez-vous vu que dans le fond, son père est assistant coach chez les Oilers?
Ouais. Ah,
Puis
ouais.
il l'a appelé avant la game. Puis Dave, dans le fond, le père de Josh, il a appelé, il a dit gagne donc cette game-là parce que je veux voir ma petite fille. Parce qu'il va aller au Colorado, fait qu'il va voir sa petite fille. Fait que Josh a compris le message. D'après moi, c'est pour ça qu'il s'est mis devant le tir. Si c'était pas son père, le coach de Oilers, je l'aurais sûrement laissé rentrer. Puis
Ouais, c'est ça.
manqué.
Ben, moi, en tout cas, je m'aurais mis devant le tir. Ça m'aurait fait mal, mais c'est pas grave. Je l'aurais fait moi aussi. Bon,
Bon,
écoutez, c'est con. Écoutez, messieurs, c'est complet cet épisode-là, notre
yes.
première loge. Merci encore une fois de venir avec moi aujourd'hui. C'était vraiment plaisant. Puis
Merci à toi.
peut-être, ben, évidemment, il va y avoir un épisode demain. Puis peut-être qu'on va avoir droit à une série, la dernière série qui va être terminée, ou peut-être un match numéro 7 qui va avoir lieu possiblement lundi soir du côté de, côté de Raleigh en Caroline du Nord. Ça reste à voir. Mais écoutez, sur ce, je suis Dwayne Ibrahim et on se voit demain pour un autre épisode de Première Loge. Salut tout le monde.